dernière partie de la grande table, on ne va pas forcément quitter ces sujets politiques et sociétaux, Caroline Brouet.
Certainement pas. J'espère juste qu'autour de la table, là, nous sommes quatre. Vincent de Gaulle-Jacques est en train de ramasser ses affaires. Peut-être qu'il va rester pour nous écouter. J'espère juste que nous allons éviter de finir l'émission par ces paradoxales. Mais nous avons commencé la semaine avec des interrogations politiques et en effet, nous les poursuivons grâce à la publication d'essais stimulants. À l'heure où d'aucuns s'interrogent sur la bonne ou sur la mauvaise gouvernance au sein des entreprises, à l'heure où le nouveau gouvernement d'Alexis Tsipras en Grèce affronte les experts de l'Union européenne pour défendre son programme, et alors que la crise du politique est l'idée sans doute la mieux partagée, on en parlait ici même lundi, plusieurs ouvrages apparaissent sur la démocratie et l'art de gouverner. Demain, nous recevrons Dominique Rousseau qui propose de refonder la démocratie. Aujourd'hui, nous allons reprendre une question à notre compte, une question que pose notre invité dans son ouvrage. La politique monétaire de l'Union européenne serait-elle différente si le directeur de la Banque centrale était un esclave que le Parlement pouvait revendre ou fouetter s'il s'acquittait mal de sa tâche? Une question en forme de boutade pour un livre on ne peut plus sérieux et on ne peut plus stimulant et passionnant. Bonjour Paulin Ismar.
Bonjour.
Et bienvenue autour de cette grande table. Vous êtes maître de conférences en histoire grecque à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous avez remporté le prix du livre d'histoire du Sénat en 2014 pour votre précédent ouvrage chez Flammarion, L'événement Socrate. Et vous faites donc paraître ce livre, La démocratie contre les experts, sous-titre Les esclaves publics en Grèce ancienne. Et c'est précisément sur le rapport entre trois, disons, de ces nombreux termes qui forment le titre de votre ouvrage que j'aimerais commencer, le rapport entre la démocratie, les experts et les esclaves. Lequel est-il ?
Ah, il est énorme, mais en fait, le livre s'intéresse particulièrement à un type d'esclavage bien particulier.
L'esclavage public.
Voilà, l'esclavage public. Dans les cités grecques du 6e siècle avant, disons, jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, jusqu'au 1er siècle avant notre ère, l'immense majorité des esclaves étaient évidemment des esclaves privés. Et ils composaient peut-être à l'époque classique entre 20, 30, peut-être 50% de la population. Mais à côté de ça, il y avait quelques esclaves qui n'appartenaient pas à des citoyens, à des hommes libres.
1000 à 2000. Dites-vous.
Voilà, 1000 à 2000 peut-être dans l'Athènes de l'époque classique, mais qui appartenaient à la cité et qui avaient des tâches très variées.
1000 à 2000 au service d'une communauté de 30 000 à 40 000 hommes, il faut rétablir les...
40 000 citoyens.
C'est ça.
Parce qu'à côté de ça, il y avait des hommes libres, non citoyens, évidemment. Et ils accomplissaient des tâches très très variées. Il y en avait qui étaient au service des différentes institutions. Donc par exemple, vous alliez à l'assemblée ou au tribunal, vous étiez accueilli par des esclaves publics qui vous disposaient sur les gradins. Il y avait des forces de police. La seule police qui ait jamais existé dans le monde des cités grecques, c'était ces contingents d'esclaves au service de la cité. Il y avait aussi des ouvriers qui travaillaient sur les grands chantiers civiques. Bon, et parmi tous ces esclaves publics, quelques-uns, mais seulement quelques-uns, avaient une fonction qu'on peut rapprocher de celle d'expert. En tout cas, ils avaient des compétences spécialisées dont la plupart des citoyens ne disposaient pas. Donc, par exemple, les archivistes. Par exemple, l'homme qui avait la charge de contrôler la validité des pièces qui étaient en circulation dans la cité. Parce que c'est un énorme problème dans les cités antiques, la fausse monnaie. Voilà.
Donc, ils étaient formés pour cela, ou ils étaient choisis parce qu'ils avaient déjà un savoir?
C'est très difficile de le savoir. On a très peu d'éléments pour le déterminer. On a une inscription qui nous dit qu'on va plutôt les acheter. Et donc, on a l'impression que c'est plutôt le marché qui fournit ces hommes qui avaient des compétences tout à fait précises.
Alors, c'est quand même des tâches objectives, là, vous l'écrivez. Peser une monnaie, classer des archives. Enfin, si on peut penser que classer des archives, c'est aussi subjectif. Mais malgré tout, leurs fonctions étaient quand même extrêmement neutre, on va dire, d'une neutralité complète.
Bien sûr, c'est pas une fonction.
C'est pour éviter que la politique ne vienne perturber cette activité-là.
Tout à fait, c'est jamais une fonction de commandement, puisqu'il y a l'idée très très forte dans le monde des cités, précisément que la souveraineté politique, le pouvoir, doit rester pleinement entre les mains des citoyens. Mais en même temps, concrètement, ils devaient avoir un pouvoir important. L'homme qui avait le pouvoir de certifier la validité de la monnaie qui circulait, c'est un pouvoir en fait absolument considérable. Et il faut bien voir aussi que dans le monde des cités, Il y a l'Assemblée qui accueille tout, à laquelle participent tous les citoyens. Il y a le Conseil qui rassemble les citoyens qui sont tirés au sort. Et puis il y a tous les magistrats, plusieurs centaines de magistrats, c'était qui sont tirés au sort et qui sont renouvelés tous les ans. Or, ces esclaves qui travaillent à côté des magistrats, eux restent en place plusieurs années de suite. Donc très souvent, on peut imaginer que de toute façon, ils participent à la formation des magistrats qui, eux, ne cessent d'être renouvelés. Bon, et d'une certaine façon, ils incarnent les seuls fonctionnaires que le monde des
les premiers des fonctionnaires de la cité, on voilà. pourrait dire. Cela, hein. c'est une conception, Paulin Ismar, très particulière du rapport entre savoir et pouvoir en démocratie que vous analysez.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'idée très forte dans la démocratie athénienne de l'époque classique que la détention d'un savoir ne doit en aucun cas légitimer un pouvoir. Et donc, il y a la volonté délibérée de placer à l'extérieur du champ politique certains savoirs spécialisés. D'où le fait de les confier à des esclaves.
Mais ce n'est pas un statut d'esclave tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui. Et ce n'est même pas, dites-vous, un statut d'esclave tel que le fonctionnement de la démocratie athénienne en avait, puisqu'ils étaient rétribués pour le travail qu'ils faisaient au service de la cité.
C'était quand même des esclaves au sens où on les achetait, où s'ils accomplissaient mal leurs tâches, ils étaient fouettés publiquement. Semble-t-il, quand ils devaient témoigner devant un tribunal, on leur appliquait le régime de la question. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est, les sources sont complexes sur ce point, mais quelque chose qui s'apparente peut-être à de la torture. Donc c'est bel et bien des esclaves. Après, on voit qu'ils ont quelques privilèges tout à fait singuliers. Par exemple, on connaît des esclaves publics qui possèdent eux-mêmes des esclaves. Ils pouvaient posséder des biens. Voilà, donc il y a plusieurs statuts serviles dans la cité, et ils ont un statut d'esclave, mais un peu privilégié.
Paulin Ismar, nous avons proposé au philosophe Mathieu Pot-Bonneville de lire votre ouvrage, ce qu'il a fait, comme toujours, avec beaucoup d'attention, et en l'occurrence, beaucoup de plaisir, si j'ai bien compris, Mathieu.
Énormément de plaisir et d'intérêt. Je trouve même que le titre du livre, « La démocratie contre les experts », risque d'en masquer un peu l'intérêt, parce qu'on se dit, on risque de se dire encore un ouvrage sur la démocratie, l'expertise, l'évaluation, ce genre de choses, là où le livre offre sans doute un échantillon de ce que l'histoire peut proposer de mieux aujourd'hui en matière de provocation à penser. À plusieurs titres d'ailleurs. D'abord, de l'intérieur du champ historique, on a à faire un petit tour de force que les historiens aiment bien faire, partir d'une toute petite question, semble-t-il, très anecdotique, et reconstruire à partir d'elle tout un paysage. Et puis, le livre mobilise aussi, c'est tout à fait fascinant, les acquis de l'histoire globale. Dire le fait que le livre commence par là, hein, par dire que nous regardons l'histoire, l'esclavage grec à la lumière de l'esclavage moderne en Amérique du Nord, et réciproquement. Et dans ce jeu de miroir, il y a des points aveugles, et pour les lever, on va chercher l'esclavage dans les sociétés du Niger, l'esclavage dans des sociétés qui ne font pas partie de notre périmètre d'attention habituel. Donc il y a vraiment une capacité d'interrogation et d'éclairage dans ce livre qui est tout à fait remarquable. Et puis, c'est un livre qui entretient, pardon, c'est le philosophe qui parle, un dialogue extrêmement intéressant avec la philosophie. Non seulement en allant chercher, c'est un classique de l'histoire grecque, Platon, qu'on va finir par croiser au moment stratégique de l'ouvrage, mais surtout...
Parce que Platon considérait que la démocratie directe n'était pas forcément la meilleure forme politique ou le meilleur régime politique qui soit. Il considérait plutôt que la démocratie, c'était en l'occurrence la dictature des ignorants. Donc,
c'est un euphémisme, hein, oui, parfait. Effectivement.
Voilà, ouais. Juste pour rappel, rapide.
Mais surtout, il y a cette manière pour le livre de passer d'une histoire des solutions à une histoire des problèmes. En gros, quand on lit la quatrième de couverture, on se dit formidable. Les Grecs avaient trouvé un truc super, ils avaient mis leurs experts en esclavage. Et il y a un petit côté revanchard en nous qui se dit ce serait bien fait.
En vous.
En moi.
Parlez en votre nom quand même.
Très rapidement. Non, mais le livre joue sur cette idée qu'il y a un contrôle à exercer sur les experts, que la démocratie devrait pouvoir maîtriser ses administrateurs, etc. Or, très rapidement, on se rend compte que cette solution trouvée au problème de la gestion de l'administration, elle renvoie à un problème qui est plus fondamental, qui est qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? Qu'est-ce qu'on entend par une cité ? Et au fond, de cette lecture un peu simpliste de l'histoire, hein, où des solutions se succèdent, de même que eh bien, les Grecs recouraient au tirage au sort pour désigner leurs gouvernants, nous les élisons, etc. Vous dites, mais il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une cité grecque ? Qu'est-ce que c'est qu'un État grec ? Et peut-on même parler, et en quel sens, d'État pour ces sociétés anciennes ?
Paulin Ismar.
Oui, je pense pas qu'on puisse vraiment parler d'État. La police, c'est pas un État. Alors on peut dire de façon très très sommaire que c'est un État, puisqu'il y a bien un lieu centralisé de pouvoir, il y a des institutions, l'Assemblée, le Conseil, etc. Mais c'est pas un État au sens moderne, parce qu'il n'y a pas d'administration. Et précisément, tout l'esclavage public, c'est un moyen de rendre invisible l'administration. C'est-à-dire d'affecter ces tâches administratives à des individus qui, par ailleurs, sont traversés par un déficit statutaire irrévocable, puisque ce sont des esclaves. C'est une façon de pouvoir croire que le fonctionnement de la cité est en permanence sous le contrôle de l'ensemble des citoyens et qui pourrait ne pas exister d'administration. Et de ce point de vue-là, dans le livre, je me réfère un peu au travail quand même de Pierre Clastres, La société contre l'État, parce que je pense que effectivement la démocratie, au moment où elle se constitue au 5e, 4e siècle, c'est en partie construite contre l'État, au sens moderne, au sens où nous on peut l'entendre.
Oui, y compris l'une des choses que vous soulignez, c'est que ce statut d'esclave empêche les experts ou les administrateurs de se constituer en corps. Qu'il ne peut pas y avoir un corps unifié dont les intérêts deviendraient autonomes par rapport à ceux de la cité, précisément parce que l'esclavage, comme vous comparez cela au statut des eunuques, qui ne peuvent pas engendrer et qui ne pouvant pas engendrer ne peuvent pas avoir d'intérêts dynastiques ou familiaux, c'est une façon d'atomiser au fond cette administration qui, par son mouvement propre, risquerait de se construire en corps autonome, non ?
Oui, tout à fait. Et les Athéniens, on le sait, étaient très attentifs au fait d'empêcher que toute forme de solidarité entre les esclaves puisse exister. D'où le recours privilégié au marché. Et il y a très peu, de manière générale, alors là ça concerne aussi bien l'esclavage privé que l'esclavage public, il y a peu d'esclaves qui naissent à Athènes. Et précisément pour qu'aucune solidarité entre esclaves puisse mettre en danger la cité en général.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Avec aujourd'hui l'historien de la Grèce antique, Paulin Ismar, qui publie « La démocratie contre les experts » sous titre « Les esclaves publics en Grèce ancienne » aux éditions du Seuil. Autour de la table, le philosophe Mathieu Pot-Bonneville et Antoine Mercier qui vous posent une question.
Oui, vous avez dit tout à l'heure, Paulin Ismar, il ne faut pas que le savoir légitime le pouvoir, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a des esclaves qui font leur travail d'expertise de sachant, indépendamment de la décision politique. C'est un peu ça qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, comment le savoir n'aurait rien à voir avec le pouvoir, et au contraire, on a le sentiment que c'est le savoir qui a pris aujourd'hui le pouvoir. Est-ce que ce raisonnement-là et ce renversement-là, vous en êtes d'accord globalement ?
En fait, ça dépend de quel type de savoir on parle. Quand Platon, et en fait pas Platon, c'est Socrate lui-même, parce que qui affirme que la démocratie c'est la dictature des ignorants, c'est un thème qu'on retrouve en permanence chez Platon. Pourquoi est-ce qu'on fait appel quand il faut construire un bateau au meilleur des charpentiers, mais quand il faut prendre une décision, n'importe qui peut prendre la parole à l'Assemblée? C'est le grand scandale démocratique pour Platon et pour Socrate. Mais ce que précisément Socrate et Platon ne voient pas, c'est qu'il y a bien une épistémologie démocratique particulière, c'est-à-dire une façon spécifique qu'a la démocratie du 5e siècle de concevoir ce que serait un savoir collectivement construit qui pourrait être à la disposition de l'ensemble de la communauté. C'est l'idée, tout simplement, que le citoyen ordinaire, à partir de sa propre expérience et la multiplication des espaces délibératifs dans la cité, tous ensemble, ils pourraient construire un savoir utile pour la cité. Donc il y a bien la construction d'un savoir, mais c'est pas le même type de savoir que celui de l'expert gouvernant dont rêvent Socrate et Platon et dont on, qui est quand même très souvent le modèle dont on s'inspire pour penser, nous, le rapport entre savoir et politique.
Finalement, Vincent de Gaulle-Jacques est parti, mais c'est très paradoxal ce que vous nous dites, bien sûr, puisqu'il y a une forme d'éloge de la démocratie directe avec tout ça, mais une démocratie directe qui se payait au prix de l'esclavage, Paulin Ismar.
Bien sûr, c'est indéniable. Enfin, c'est-à-dire, on est... En même temps, il y a de très nombreux aspects dans le fonctionnement de la démocratie athénienne qui suscitent encore et toujours notre étonnement, notre admiration, et même dont on peut s'inspirer. Et aujourd'hui, tous les politistes qui réfléchissent sur les formes de délibération, la démocratie participative, sont obligés de revenir au modèle athénien. Bon, et notamment pour réfléchir sur cette question de la compétence des incompétents, la façon dont une compétence collective...
Et l'incompétence des compétents aussi,
oui,
parfois.
Bien sûr. Alors ça, c'est encore une autre question, mais bien sûr. Et en même temps, qu'on peut s'en inspirer, il y a une distance irrémédiable qui nous en sépare. Et elle tient quand même fondamentalement à la structure esclavagiste des cités grecques en général, qui sont quand même les premières grandes sociétés esclavagistes de l'histoire.
Mathieu Podemedi.
Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous appelez cette épistémologie démocratique, c'est-à-dire au fond ce tiers choix entre la compétence experte et l'ignorance. Le grand théoricien, et vous le signalez au passage, de cette manière pour une démocratie de prendre des décisions et de savoir des choses sans les avoir apprises, c'est celui que les lycéens apprennent à considérer comme l'un des grands méchants de l'histoire, c'est Protagoras. C'est le chef de file des sophistes, puisqu'au fond, les sophistes considèrent que les citoyens peuvent s'apprendre les uns aux autres des choses, quand bien même eux-mêmes ne les ont jamais apprises, ne les ont jamais tirés d'un savoir fondamental ou transcendant. Bon. De cette solution, Platon ne veut pas, parce qu'il considère qu'elle mène tout droit à la démagogie. Et on pourrait dire que si la dérive de l'expertise, c'est la bureaucratie, la dérive de ce savoir démocratique, c'est la démagogie, non ?
Paulin Ismar.
Je ne sais pas ce qu'on entend exactement par démagogie. Parce que chez Platon, ce que lui-même appelle la démagogie, c'est quand même le pouvoir des passions populaires à l'Assemblée, manipulé par quelques hommes. Bon, mais en même temps, ce régime démocratique, il a bien fonctionné.
Et longtemps.
Et longtemps, très longtemps. C'est quand même 4 siècles d'histoire. Alors évidemment, avec une histoire tourmentée, des phases de renversement, de réinstauration de la démocratie, mais il y a une histoire longue de ce fonctionnement démocratique. Donc le terme de démagogie, disons, me dérange un peu de ce point de vue-là.
Mathieu. Alors Antoine.
Oui. Bon, sans revenir à l'esclavage, est-ce que nous pourrions, pour nous, aujourd'hui, nous inspirer un peu de ce modèle grec ? Qui avait quand même l'avantage précisément de redonner à la démocratie sa place et n'être pas écrasé par l'expertise sachante.
Force et faiblesse de l'analogie, quoi.
Oui, bah, non, mais je pense que dans le fonctionnement politique de la cité classique, il y a plein de choses dont on peut s'inspirer. Et beaucoup de gens travaillent là-dessus, le tirage au sort. Bon, mais ce qui est au cœur du fonctionnement de la cité, c'est vraiment la multiplication des espaces délibératifs. C'est assez étonnant quand on pense à ce que devait être la vie d'un citoyen.
Non, mais je parle des experts. Mettre les experts dans une position, non pas d'esclavage, évidemment, mais de distance par rapport à la décision politique.
Oui, enfin, je pense que évidemment, il faut, dans la mesure... Enfin, alors, quand on parle d'experts aujourd'hui, on se réfère à des choses, en fait, très, très différentes. Parce que pour réfléchir sur la politique nucléaire de la France, il faut des physiciens nucléaires, ça me semble évident. Après, le modèle de l'expert conseiller du prince, qui a une compétence très souvent infiniment...
Ne pas confondre les énarques et les chercheurs, vous voulez dire.
Voilà, par exemple. Oui, oui. Alors, oui, ça peut être les énarques et les chercheurs. Mais enfin, vous voyez, on a tous des images en tête comme ça d'experts qui habitent l'espace public, qui ont un avis sur tout et en même temps, dont on sent bien qu'ils s'appuient sur très, très peu de choses. Alors oui, ceux-là, effectivement, c'est juste qu'il faut... baliser clairement ce qui est du registre du politique et ce qui est du registre de la compétence spécialisée.
voilà. La technique ou de l'administration.
Oui.
C'est difficile à faire, hein, la part des choses.
C'est d'autant plus difficile que j'ai eu le sentiment à vous lire que votre livre raconte cette histoire-là et raconte une autre en même temps. Il y a une sorte de bouger dans le livre que j'ai perçu de la manière suivante. Dans un premier mouvement, vous dites au fond, ces esclaves publics, ce sont des administrateurs à qui la cité a sous-traité les questions de gestion, les questions techniques, pour pouvoir exercer pleinement son pouvoir politique. Ça, c'est, disons, la ligne majeure dans votre livre. Et puis, il y a un contrepoint qui est un peu plus discret, qui consiste à dire, vous me direz si je vous ai bien lu, que cette cité grecque, elle a besoin d'une forme d'extériorité, d'une forme d'altérité, qui la constitue elle-même comme cité. Autrement dit, que pour que la cité fasse corps avec elle-même, il faut qu'elle rejette en dehors d'elle-même et qu'elle se réfère en même temps à quelque chose, à de l'autre. Voilà. Et il y a une interrogation qui court dans le livre sur ce qu'il en coûte d'être une communauté politique et du genre de dehors dont on a besoin pour être une communauté politique. Et vous finissez par dire que ces esclaves publics, ce sont les héros secrets de la cité grecque, hein, qu'ils jouent une sorte de rôle souterrain, mais absolument essentiel, sans lequel la communauté politique ne serait pas une. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un peu sursauté en vous écoutant dans le journal dire les administrateurs ne devraient être que des administrateurs. Parce que dans votre livre, vous dites que ces administrateurs spécialisés, ils portent en même temps quelque chose, symboliquement disons, oui, de plus fondamental que ça.
Soit un rouage essentiel du fonctionnement politique.
Est-ce qu'on peut cantonner la vérité à l'expertise, à cette expertise technique ?
Paulin Ismar.
Non, alors je dirais, effectivement, toute la fin du livre défend l'idée selon laquelle ils détiennent quelque chose du secret de l'institution qu'est la cité. Et en ce sens-là, on peut dire que c'est les héros secrets de l'État grec.
Mais quel secret ? Comment ça marche ?
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'ils incarnent un État grec, qu'il s'agit en même temps de mettre à distance, mais ça les place dans une position qui est exceptionnelle. Et il y a une inscription de la fin du IIe siècle qui utilise un terme inouï, c'est le terme d'Eleutheria Laiturgia. On ne sait pas très bien comment le traduire. C'est quelque chose comme le service public. C'est généralement comme ça qu'on le traduit. Mais il y a le terme Eleutheria, il y a le terme de liberté. Donc c'est les garants, d'une façon, de la liberté commune.
Ce seraient les grands commis de l'État aujourd'hui. Ce serait là quand même la haute fonction publique, telle qu'elle a été pensée, comme le rappelle très justement l'historien André Burrière dans un article consacré justement à votre ouvrage, Paulin Ismar, et qui dit la haute fonction publique pour laquelle l'ENA avait été créée à la Libération par Maurice Thorez, ministre du général de Gaulle, ce ne serait en rien rabaisser le rôle ni leur infliger une punition que de leur rappeler leur véritable fonction. La reconstruction du pays et la mise sur les rails des Trente Glorieuses dans les années 50 ont été l'œuvre pour une bonne part de grands commis de l'État sortis de l'ENA qui ont agi en administrateurs visionnaires du bien public, porteurs de ce secret qu'avaient les esclaves publics dans la cité athénienne. On va loin là parce qu'effectivement on fait une analogie que vous refusez de faire dans votre ouvrage, mais le présent est malgré tout constant dans votre livre.
Oui. Mais alors moi, mon idée, c'est plutôt, disons tout, à la fin du livre, qui est un peu un songe d'histoire, parce que je m'appuie sur le Diproie, sur le Phédon de Platon, sur un passage de l'Acte des Apôtres. C'est l'idée vraiment que ces hommes, dans la mesure où ce sont les garants de la liberté du corps politique, ils détiennent quelque chose de l'ordre de la vérité, de ce qu'est fondamentalement. Et du coup, il y a des moments dans les textes anciens où on les voit. Dire une vérité qui vient d'ailleurs et jouer le rôle effectivement de miroir d'une certaine façon de cette communauté. Mais bon, en même temps, si on tisse des liens comme ça de façon un peu flottant et imprécis, c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans l'œuvre de Faulkner, ou la figure de l'esclave aussi, comme celui qui est l'exclu absolu, mais qui dit la vérité.
Et aujourd'hui, nous n'aurions plus d'exclu, vous diriez, dans notre système aujourd'hui, qui permettrait précisément ce secret de.
Ah, je sais pas.
Paul Ismar est historien de la Grèce antique, hein, je vous le rappelle, Antoine.
Mathieu Bonneville. Je trouve que la question posée mérite vraiment d'être entendue, parce qu'au fond, pour une oreille philosophique, cette question c'est une démocratie doit à la fois se méfier de son administration, et elle a besoin d'une institution. Ouais. Et entre la méfiance envers elle, l'administration et la nécessité d'une institution, or une institution, ça requiert minimalement une forme d'extériorité, de dehors, dans cette tension-là, votre livre installe une réflexion qui n'est pas du tout métaphysique, extrêmement précise et documentée, mais qui me semble, pour le coup, extrêmement actuelle.
Paulin Ismar.
Non, je vous
approuvez. Oui. La cité grecque ne peut offrir des ressources de sens que sur le fond d'un écart radical avec notre propre condition politique. Vous exprimez bien là la limite, effectivement, de l'analogie. Quand on travaille sur vous, sur la Grèce ancienne, sur le fonctionnement de la démocratie, et qu'on vit dans une démocratie qui, aujourd'hui, est une démocratie imparfaite, non, vous n'êtes pas le seul, Paulin Ismar, à penser cette démocratie aujourd'hui et à aller chercher ailleurs, et surtout autrefois, des pistes pour mieux la comprendre. Est-ce qu'on ne vit pas dans une forme de, je ne sais pas si je vais trouver le mot, de déconnexion, pour reprendre un terme justement qui est utilisé pour la crise du politique, de déconnexion radicale. Est-ce qu'on arrive à faire la part des choses? Et jusqu'où arrivez-vous à tenir ce fil qui est aller trouver des pistes de réflexion, mais ne pas trop le ramener à aujourd'hui?
Oui, bien sûr, c'est le grand danger. On est tenté naturellement de sombrer dans l'idéalisation pure et simple de la démocratie athénienne. Dès qu'on travaille dessus, on en devient presque professionnellement militant et on est tenté d'idéaliser totalement ce qu'a été l'expérience démocratique. En même temps, bon, je vis
constamment avec ça.
Oui, je vis tout. Constamment avec ce danger-là. J'essaie autant que possible de pas y sombrer.
Vous dites aussi dans votre ouvrage La démocratie contre les experts que peu d'historiens se sont intéressés avant vous à cette place, à cette fonction, à cette nature des esclaves publics, comme vous le faites. Comment l'expliquez-vous?
Ah ben, c'est ce qu'expliquait Mathieu Pannebonneville tout à l'heure, c'est qu'on a pendant très longtemps analysé l'esclavage gréco-romain à la lumière de l'esclavage colonial. Avec cette idée très forte que la Grèce et Rome avaient été les deux premières sociétés, grandes sociétés esclavagistes de l'histoire, et puis ensuite il n'y aurait eu que trois autres grandes sociétés esclavagistes, le Brésil, les Antilles et les États-Unis. Depuis 20-30 ans, il y a un ensemble de travaux considérables qui ont été conduits sur d'autres formes de sociétés à esclaves, qui en réalité étaient de vraies grandes sociétés esclavagistes, dans l'Afrique précoloniale, en Asie du Sud-Est, et ou dans le monde islamique en général. Et dans toutes ces sociétés, on voit bien cette figure de l'esclave d'État, ou de l'esclave royal, ou de l'esclave de cour. Hein, les historiens, les anthropologues utilisent différents termes pour les qualifier. Et voilà, et à partir de ces travaux, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire.
Il faudrait comprendre esclave, justement, comme exclu, plus que comme misérable ou condition d'esclavage telle qu'on l'entend. Est-ce
oui.
que c'est pas ça qu'il faudrait
non, mais
faire
l'esclavage,
ressortir.
Bien sûr, l'esclavage, c'est un statut juridique. Oui. C'est pas une condition sociale. Il y a des esclaves qui peuvent être infiniment privilégiés, être plus riches que des citoyens. Ça, c'est attesté dans de très, très nombreuses sociétés.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils peuvent être très bien rétribués, mais ils peuvent être aussi fouettés en place public parce qu'ils ont mal fait leur
oui.
travail.
Cela dit, non, je pense que c'est important parce que ça permet de... On a un peu cette côté... En même temps, on est séduit par cette perspective. En même temps, on estime que l'esclavage, c'est pas très bien non plus. Mais on peut comprendre, comme disait Mathieu tout à l'heure, la nécessité d'avoir des gens qui sont malgré tout un peu en dehors, qui soient à l'extérieur, qui représentent une altérité pour que la démocratie se constitue, comme si c'était quand même un enseignement dont on devrait tirer peut-être quelques leçons.
Oui, mais... Les leçons qu'on peut en tirer ne peuvent absolument pas fonctionner en transparence. C'est-à-dire qu'on peut, on peut pas
plaquer.
On peut pas plaquer et voilà. Ça...
Vous passez plus de temps en Grèce qu'en France.
En fait,
avez...
c'est ça.
Non.
En Grèce de l'époque.
Mathieu Bonnelly.
Le lecteur du livre est placé comme dans la même position que le spectateur d'un film de Fritz Lang, c'est-à-dire constamment renvoyé de l'admiration vis-à-vis de ce modèle à l'effroi devant ce modèle esclavagiste. Et je pense que cet inconfort-là renouvelle et nourrit l'inconfort contemporain de manière bien plus stimulante que tout relevé de solutions qui pourrait s'appliquer immédiatement.
France Culture. La Grande Table.
Il est 13h25, quasiment 13h26. C'est l'heure de retrouver les idées au quotidien de Raphaël Bourgois. Bonjour Raphaël.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Les effets paradoxaux de la crise européenne.
Et oui, je vais vous parler d'Europe, de cette Europe qui semble plongée depuis 2008 en pleine tragédie. Et aujourd'hui, on se demande si on ne serait pas entré dans son cinquième et dernier acte, celui au cours duquel, dans le théâtre classique, tout se dénoue. Bon, avec la mort d'un ou de plusieurs personnages, espérons que notre histoire soit moins fatale. L'essai de Paulin Ismar correspond étonnamment à une intuition très forte ces derniers temps que nous vivons aujourd'hui une période de réminiscence. Pas un jour ne passe sans que soit faite une référence à l'Antiquité, à la démocratie athénienne, aux philosophes. On a parfois le sentiment que la crise sera bien ce moment de bascule, l'aboutissement d'une longue séquence historique qui a vu les Européens tour à tour s'affronter puis se rassembler. Le pire comme le meilleur peut en sortir. Comme je suis un éternel optimiste, vous le savez Caroline, j'insisterai donc sur les scénarios positifs en appuyant comme toujours sur un article scientifique glané au fil de mes lectures. En l'occurrence, le dernier recueil publié par les Presses universitaires de France, deux textes de la revue en ligne lavidesidées.fr, ouvrage intitulé « Euro, les années critiques ». Il s'ouvre cet ouvrage sur un article collectif, la crise de la zone euro et le déni de l'autre, donc trois auteurs, Kira Gartsou-Katsouyani, Calypso Nicolaïdis et Claudia Sternberg. L'idée développée, c'est que la crise de la zone euro dépasse largement l'enjeu économique, il touche au fondement même de l'Union, il touche à la reconnaissance mutuelle. Or, alors que la confiance est mise à rude épreuve, les auteurs veulent montrer comment, paradoxalement, l'Union s'est renforcée à l'occasion de cette crise. Les peuples en ont plus appris sur eux-mêmes et sur les autres au cours de ces années, pourtant peu avares en stéréotypes, que pendant les années plus calmes qui ont précédé. Le postulat de cet article est le suivant. L'Europe est un projet inédit qui se cherche, ni État fédéral, ni regroupement plutôt mou hein, de plusieurs États. Ses fondations ne sont pas techniques, mais bien d'ordre socio-culturel, la fameuse reconnaissance mutuelle. La légitimité, la réalité de l'Union ne réside pas uniquement dans ses institutions, son pouvoir législatif, ni même dans son histoire. Elle se fonde sur la capacité des peuples à se reconnaître dans leur singularité et dans leur communauté. On suit une ligne de crête difficile entre affirmation de soi et interaction avec les autres sans chercher à en faire des copies conformes. Alors évidemment, dit comme ça, l'affrontement de ces dernières années entre les Allemands et les Grecs ferait plutôt figure de contre-exemple. Il est analysé par Gartsou, Katsouyani, Nicolaïdis et Sternberg de manière plus nuancée. Pour eux, les préjugés qu'ont échangés les Grecs paresseux, fraudeurs, épicuriens, agrippés à leurs dépenses publiques et les Allemands égoïstes, tristes, rigides et grippe-sous ont eu une vertu positive. Car si on analyse les choses finement, comme le propose l'article, on se rend compte que la diffusion de ces stéréotypes s'accompagne en fait toujours d'analyses plus profondes et donc d'une meilleure connaissance de nos voisins. Et surtout, chacun se voyant déformé dans les yeux adverses a été amené à réfléchir sur soi et sur l'autre. La conflictualité des débats, les blessures, les réactions et les dénis, tout cela a finalement donné un nouveau souffle à la reconnaissance mutuelle. Et la tragédie annoncée n'aura peut-être pas lieu.
Un peu comme nous ici à Radio France, quoi, d'une certaine façon. Merci Raphaël Bourgois.
Vous
et
avez
merci.
Lu entre les lignes, Caroline.
Et merci à vous, Paulin Ismar. Merci beaucoup pour cet ouvrage passionnant, La démocratie contre les experts, les esclaves publics en Grèce ancienne, publié aux éditions du Seuil dans la collection L'Univers historique. Merci beaucoup, Mathieu Pott-Bonneville. Vous pouvez retrouver La Grande Table sur Twitter, sur Facebook, la réécouter, la podcaster pendant très longtemps sur le site de France Culture. La page est actualisée chaque jour. Elle comporte notamment toutes les références bibliographiques et musicales que nous avons citées. À la technique aujourd'hui, c'était Alexandre Dang. On se retrouve demain.